BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Erwan Morris.
Il est tout pile 17h30, ravi de vous retrouver, on est en direct ensemble. On vous accompagne tout au long de l'été, chaque jour jusqu'à 18h pour revivre la séance et partager avec vous les analyses de nos meilleurs experts. Dans un tout petit instant, dans moins de 5 minutes maintenant, la cloche avec le CAC 40 hein, qui accélère quand même en milieu de semaine. On frôle une progression d'1%, le CAC 40 à 8443 points. Et cela sur fond de résultats cette semaine. Airbus signe pour l'instant la plus forte hausse de l'indice parisien. L'avionneur qui publiera la semaine prochaine mais présente de nouveaux objectifs et un vaste plan de rachat d'actions. On commentera cela dans un instant. Séance en cours également à Wall Street. C'est un peu plus partagé. Bon, on est globalement à l'équilibre. Le S&P 500 progresse de 0,07%. Idem pour le Dow Jones, plus 0,1%. Le Nasdaq, lui, étant repli, c'est du rouge, moins 0,1%. L'indice technologique qui attend ce soir des résultats aussi, hein, Alphabet et Tesla qui vont ouvrir le bal. Au programme de cette demi-heure également, le pétrole avec un baril de Brent qui continue de progresser assez largement quand même. On est autour d'une progression de 2,5%, un baril au-delà des $93 pour le Brent. Il faut dire que Washington déplore que les autorités iraniennes ne prennent pas les négociations au sérieux. Cela préoccupe donc le marché, mais profite aux majors. À Paris, si on regarde Total Energy, on est sur une progression d'un peu plus de 1,5% à quelques minutes maintenant donc de la clôture. Et puis dans la suite des résultats, on parlera aussi notamment de Santander qui publiait ce matin, le géant bancaire espagnol qui affiche un bénéfice conforme aux anticipations des analystes. À venir aussi après la clôture, donc peut-être tout à l'heure on le commentera, UniCredit, Alstom, Fnac Darty pour les résultats. Tout cela en direct jusqu'à 18h avec nos invités que je vous présente. Avec nous en plateau, Geoffrey Wafka. Bienvenue Geoffrey.
Bonjour.
Merci de nous accompagner au cœur de l'été, directeur des gestions chez Auris Gestion. Également à distance avec nous, Franck Morel, président de Zone Bourse, et Romain Daubry, consultant Bourse Direct. Allez, on va faire un petit tour avec chacun de vous trois, peut-être avec vous pour commencer. Geoffrey Wafka, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce qui retient votre attention aujourd'hui, cette semaine, avant d'entrer dans le dur là, des sujets qu'on a évoqués?
Avant le début de la saison des publications des hyperscalers américains, moi je veux revenir sur un point qu'un point de la semaine dernière finalement, mais c'est ce fameux modèle chinois qui s'appelle Kimi 3, développé par la société Moonshot AI, qui vendredi dernier a commencé à réinquiéter les investisseurs, un peu comme quand il y avait eu ce fameux moment DeepSeek, parce que ce modèle il est très compétitif.
Et les boîtes américaines aussi, hein, elles-mêmes, d'IA, qui regardent ça avec préoccupation.
Exactement, parce que en fait, ce dont on se rend compte, c'est que des sociétés chinoises, Moonshot a été créé il y a 3 ans à peine, ces sociétés chinoises arrivent à concurrencer des modèles américains financés par des sociétés qui ont des reins encore plus solides et bien plus solides. Et c'est vrai que ça nous interroge quand même sur cette thématique IA, et on sent bien que c'est un peu l'épée de Damoclès finalement, parce que ça pose quand même 2 questions. Est-ce que finalement, les capex des hyperscalers américains, donc des Google, des Meta, des Microsoft, est-ce que ces capex-là vont être rentabilisés alors qu'on a des modèles chinois qui sortent et qui sont très compétitifs et dont le coût d'usage est très faible finalement? Donc, c'est un peu des modèles à prix cassé. Et puis, dans le même temps, on a des marchés qui intègrent des capex des hyperscalers américains qui sont toujours en très forte hausse pour l'année prochaine. C'est plus 30%, on passerait de 700 milliards à 1000 milliards. L'année d'après, c'est encore 20-25% de progression. Et finalement, est-ce que ces capex arriveront à être rentabilisés? Et si la réponse est non, est-ce que ces capex sont nécessaires? Et nous, c'est un peu finalement le risque qu'on ressent sur la thématique IA dans son ensemble, et surtout pour les semi-conducteurs. Le marché a intégré énormément de dépenses, mais est-ce que ces dépenses seront réalisées? Ça, c'est la vraie question. Et on sent bien que ces modèles chinois, ils peuvent remettre en cause tout le modèle économique qu'ont développé les grandes sociétés américaines. Donc c'est notre point d'attention majeur cet été.
Les semi-conducteurs, on a vu une forte baisse il y a quelques jours et puis finalement c'est reparti quand même bien dans le vert. C'est vrai qu'il y a quand même de la volatilité sur ce secteur.
La volatilité est très forte. J'étais venu il y a quelques semaines, on parlait déjà de l'engouement pour les semis et toutes les valeurs en bénéficiaient, même des valeurs comme Soitec dont l'impact direct des dépenses des capex des hyperscalers est très faible. Juste avant la publication, on m'avait demandé ce que j'en pensais. Je me disais, bon, le titre a quand même bien progressé. Il y a un risque de déception majeur. Le lendemain, le titre progresse de 12%. Donc j'avais tort, mais néanmoins, sur les semaines à venir, avec la correction, il a perdu 50%. Ça montre à quel point la volatilité sur ces titres-là, qui sont devenus très consensuels, et très cher, est un risque important à garder en tête.
Franck Morel chez Zone Bourse et puis Romain Daubry, Bourse Direct, qu'est-ce qui retient, vous, de votre côté, votre attention là ces jours-ci?
On a évidemment les publications des sociétés américaines, les poids lourds de la tech, avec Alphabet en premier lieu, dont on est actionnaire. Donc la publication sera très importante pour nous ce soir. On a aussi un sujet qui sera très 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 intéressant, qui est l'évolution des publications des business de ServiceNow et de SAP, donc les acteurs du logiciel, les acteurs historiques qui ont clairement subi la montée en puissance de l'IA ces dernières mois voire années. Donc on a des niveaux de valorisation qui sont désormais très faibles sur ces acteurs, sur lesquels d'ailleurs nous sommes positionnés à l'achat aussi, et qui donc publieront, à voir si elles subissent effectivement des investissements qui seraient détournées du logiciel vers l'IA, ou si au contraire elles arrivent à intégrer des fonctionnalités d'IA à l'intérieur de leur solution, et si elles arrivent à en profiter. En tout cas, il y a plusieurs sortes d'acteurs du logiciel. Il y a des acteurs comme ServiceNow ou SAP qui sont particulièrement imbriqués dans les données de leurs clients, où pour nous le risque nous paraît beaucoup plus faible que des acteurs du logiciel pur qui développent des solutions. Donc on est clairement à l'achat sur la thématique du logiciel intégré. Donc SAP et ServiceNow, on verra si le marché nous donne raison ou pas ce soir et demain avec les publications donc de ces deux acteurs très importants de cette thématique. Voilà ce qu'on va surtout suivre avec les publications des leaders de la tech américaine, puisque depuis quelques semaines, quelques mois, on a dépassé les 50% de capitalisation aux États-Unis qui repose sur le secteur de la technologie. Donc quand vous achetez des sociétés américaines, un gros panier, vous êtes investi à plus de 50% de votre portefeuille sur la technologie américaine, avec les semi-conducteurs qui représentent désormais 15% de cette thématique d'investissement US, de par le fait qu'elles ont pour la plupart doublé voire triplé depuis un an. Donc on voit l'ampleur du mouvement, jusqu'où cela va aller. Plus de 50% de la capitalisation qui est dans la technologie, et encore sans forcément intégrer Amazon ou Tesla qui peuvent être rangés potentiellement dans des secteurs cycliques. Donc on est clairement sur la numérisation d'à peu près tout, et donc à voir si les secteurs plus traditionnels pourront se venger dans les mois et à venir, ou si au contraire cette domination va poursuivre.
Et il est bientôt 17h38, c'est l'heure de la clôture sur le marché européen, et c'est donc globalement du vert, une très bonne séance. Le CAC 40 progresse de près de 0,9%, 8437 points, c'est du vert aussi à Francfort, le DAX plus 0,6% et le FTSE du côté de Londres 1,3% à 10726 points, l'Eurostock 50 plus 0,5% 6317 points. Du côté des valeurs, sur le CAC 40, on en parlait tout à l'heure, Airbus signe la plus forte hausse de l'indice parisien, on est sur du plus 7%. On va y revenir dans un instant. L'action s'achète 208,30€. Total Energy derrière, plus 2%. Le titre s'achète 74€, suivi d'Engie et de Renault. Du côté des plus fortes baisses, Danone, moins 2,2% à 70€. Capgemini, LVMH et Essilor Luxottica, moins 1%. Le 10 ans français, on en parlera aussi dans un instant, qui frôle les 4%. Ça devrait plus tarder, ça sera peut-être pas pour aujourd'hui. On est à 3,97, 3,98. On refait la séance avec vous, Romain Daubry. Quel signal technique envoie cette clôture?
C'est un message important aujourd'hui qui a été donné par l'indice Eurostoxx et l'indice CAC 40, puisqu'ils ont réussi à combler le gap baissier qui avait été laissé ouvert le 8 juillet dernier. Donc on invalide une partie de la baisse, on repasse au-delà de niveaux techniques importants. Il faut juste noter que ça n'a pas été le cas pour le DAX, qui reste sous ce niveau, sous ce plafond de verre pour l'instant. Donc 8435 préservés pour l'indice CAC 40, c'est un signal haussier qui sera confirmé, ça n'est que sur une seule séance. Mais on peut noter que le volume est quand même de plus de 4 milliards aujourd'hui, et par ailleurs qu'il y a de la participation de différents secteurs, différentes actions sur le marché et sur l'indice parisien. Donc c'est un mouvement qui s'étend un peu, et effectivement la publication d'Airbus est de bon augure. On a eu celle de Publicis qui a été bien accueillie la semaine dernière aussi. Alors ce qu'on observe d'une façon générale, et effectivement, on va surveiller de très près les publications de la tech, les valeurs de la tech. Effectivement, SAP nous paraît intéressante parce qu'elle sous-performe nettement pour l'instant aussi. Mais ce qu'on peut voir, c'est que sur l'ensemble des valeurs tech qui vont publier dans les jours qui viennent, les ratios de couverture indiquent que les opérateurs sont assez prudents. Et c'est plutôt de bon augure en général. C'est-à-dire que bien les mouvements de consolidation qu'on a observés ces derniers jours, ces dernières semaines, ont été pris au sérieux par les opérateurs qui sont un peu plus prudents, qui sont moins euphoriques ou moins complaisants, en tout cas qu'il ne l'était il y a quelques semaines maintenant. Donc c'est plutôt de nature positive. Si on regarde Google, c'est le cas aussi, Intel de la même façon. Donc on a quelque chose d'assez assez prudent de ce côté-là, sur STM aussi. Donc encore une fois, on attend plutôt des surprises positives après des mouvements de consolidation qui ont été un petit peu appuyés. On s'intéresse et on regarde aussi aux matières premières, puisqu'on voit que le secteur des matières premières remonte. On avait évoqué le pétrole en début de semaine avec une cible sur le Brent située entre 96 et 98. On est très proche maintenant, mais on voit que ce mouvement sur les matières premières s'étend aux métaux. Il y a des rebonds assez significatifs qui se mettent en place sur l'or, sur l'argent. Et puis on surveille aussi le palladium, par exemple.
Sur le pétrole, Franck Morel, président de Zone Bourse, on le disait à l'instant, on est quand même sur un baril de Brent qui continue de grimper. Alors, est-ce qu'on parle d'une envolée ? Peut-être pas, mais on est quand même sur une progression de 2,6%, $94. Bon, est-ce qu'on va retrouver les $100 quand on voit les déclarations de Rubio, quand on voit aussi les déclarations au saut du lit de Donald Trump ce matin qui dit qu'il pourrait s'attaquer aux infrastructures civiles si les navires américains étaient touchés? Comment est-ce que vous regardez tout ça?
On subit, comme à peu près tout le monde, on subit les déclarations, comme vous le dites, au saut du lit de Donald Trump. Donc on est face à un choc d'offres géopolitiques, avec en face une demande qui baisse finalement. Donc l'augmentation des prix du pétrole, au moins pour avantage de faire que la consommation de pétrole diminue. À quoi s'attendre si effectivement le conflit perdure, si c'était l'information du jour, l'Arabie Saoudite est prise en étau avec ces deux détroits par lesquels elle peut plus livrer son pétrole. Vous allez avoir une flambée des coûts. En tout cas, Goldman Sachs s'attend à une hausse à $120 le Brent si rien ne rentrait dans l'ordre pour le Q4. C'est extrêmement compliqué d'avoir des anticipations. On est passé de 120 à 70, on revient aujourd'hui à 90 autour des 90 pour le Brent. Vous avez une volatilité très importante. Ce qui est sûr, c'est que les pétroliers en profitent. Vous avez aujourd'hui la publication des Equinor, donc on va dire le total norvégien, qui a été une publication record avec une publication trimestrielle trois fois supérieure à celle de l'année dernière à la même époque en termes de bénéfices. Donc le secteur en profite, mais la volatilité est très importante et c'est extrêmement compliqué. En tout cas, nous, on évite le secteur. Et si toutefois on est un peu exposé, ce serait par exemple par le biais de Eni, donc l'acteur italien qui pour le coup est essentiellement tourné sur l'exploitation et le pétrole africain et qui bénéficie des cours mondiaux, mais sans les problématiques de logistique ou de géopolitique qu'on observe actuellement au Moyen-Orient.
Geoffrey Wafka, on reste sur les énergies. On regarde aussi peut-être avec vous ce soir Total Energy qui clôture sur une progression, c'est plus 2%. Le titre s'achète un petit peu plus de 74 €. Total Energy qui peut-être profite là de la progression du Brent dont on vient de parler, et Total Energy qui va aussi publier demain matin.
Oui, et qui devrait publier des bons résultats. C'est simple, il faut quand même garder en tête que Total produit 2,5 millions de barils par jour, donc c'est à peu près entre 2 et 3% de la production quotidienne de barils mondiale qui est produite par Total. Et c'est vrai que les chiffres devraient donc être très bons, soutenus évidemment par l'exploration, la production de pétrole, puisque avec l'explosion des cours du baril, on a un cours de Brent moyen sur le trimestre autour de $100. La société devrait générer de très bons résultats sur cette division-là, ce qui devrait compenser d'ailleurs la faiblesse de la division gaz, qui pour le coup, elle est un peu plus impactée, notamment sur l'activité de trading sur le gaz européen, qui a été moins bonne. Et après, le vrai sujet sur Total, ça va être maintenant la redistribution de cash aux actionnaires, parce que la génération de flux de trésorerie chez Total est en train d'exploser à la hausse, évidemment, avec le contexte qui lui est très favorable. Et maintenant, tout le monde s'attend à ce qu'elle distribue encore plus de dividendes et rachète encore plus d'actions. Ça peut être un soutien au cours de bourse sur très long terme, puisqu'on attend quasiment 2 milliards de rachats d'actions par trimestre pour Total. C'est un chiffre très important pour le secteur.
Total Energy qui a confirmé aussi aujourd'hui qu'il allait élargir son dispositif de plafonnement des prix, hein, non pas dans certaines zones en France, mais à tout le territoire, étant donné la poursuite de la flambée des prix et du prix du carburant à la pompe. Romain Daubry, chez Bourse Direct, peut-être aussi un mot, on en parlait, sur le taux 10 ans de la France aux portes des 4%. Plus beaucoup de doutes sur le fait qu'on va les toucher probablement de façon imminente.
Oui, effectivement. C'était un message haussier qui s'est mis en place au débordement des 3,5 et le mouvement ne s'arrête pas pour l'instant. Si on fait des projections, on a évolué dans une zone située entre 2,40 et 3,52 pendant plusieurs mois. Le débordement de ce niveau de 3,52 donne un signal haussier. Donc effectivement, on est aux portes des 4. La cible, elle pourrait même mener jusqu'à 4,62. Alors ça paraît beaucoup, mais le mouvement reste haussier et il est assez harmonieux. Même aussi sur le 10 ans américain où on a des cibles haussières qui se dessinent.
Franck Morel, là-dessus, rapidement.
Sur quel sujet ?
Sur le 10 ans français.
Ah, sur les taux, pardon, oui, excusez-moi. Pardon. Oui, sur les taux, en fait. Sur le 10 ans français, on est au plus haut. On est au plus haut depuis 2009.
Depuis 2009, ensemble, hein, oui, c'est ça.
Comme c'est le cas d'ailleurs pour à peu près tous les pays occidentaux. Donc on est au plus haut aussi en Allemagne, on est aussi au plus haut aux États-Unis, on est au plus haut au Japon, on est au plus haut partout. Donc on a des taux à 10 ans à peu près partout qui sont au plus haut. C'est normalement négatif pour les marchés actions puisque en gros vous avez des rendements sans risque qui augmentent. Donc quel est l'intérêt d'aller prendre des risques et d'investir en actions ? Et encore plus pour les sociétés de croissance. Mais c'est évidemment pas ce qu'on observe depuis quelques mois puisque il y a toujours une exception qui confirme la règle. C'est en tout cas ce que le marché semble nous indiquer, puisque la tech est au plus haut, est particulièrement achetée, même d'ailleurs plus que tous les autres segments, alors que les taux sans risque explosent. Donc on a aussi évidemment en France un cas particulier qui est lié à notre contexte politique et notre déficit particulièrement important qui font de nous l'un des plus mauvais élèves, mais la problématique se retrouve à peu près partout. Donc les conséquences, elles peuvent pas être normalement positives, en tout cas pas pour l'immobilier. C'est le premier secteur qui est concerné par des taux très importants. Et quand on dit que l'immobilier va, tout va, eh bien, a priori, l'immobilier ne va pas bien et ne va pas aller beaucoup mieux compte tenu de ces niveaux de taux. Donc pour le moment, on n'a pas encore observé de problématiques, notamment sur le secteur bancaire, qui peut normalement, et c'est le cas actuellement encore, bénéficier de taux élevés jusqu'au moment où ces taux freinent l'économie. Donc est-ce qu'on arrive sur des niveaux qui vont être acceptés? En tout cas, apparemment, c'est ce que le marché semble anticiper, puisque les indices sont relativement hauts, alors que les taux le sont aussi. Donc, en tout cas, j'évite très clairement le secteur de l'immobilier. Et puis, si on devait investir dans le secteur bancaire, on irait plutôt sur les secteurs du Sud, notamment, typiquement, parce que les ménages sont endettés à taux variable. Donc, quand les taux montent, eh bien, les revenus, les profits augmentent aussi, alors qu'en France, c'est une particularité. On est endetté à taux fixe le plus souvent, et donc la montée des taux ne bénéficie pas, en tout cas pas dans les mêmes proportions, au secteur bancaire.
Geoffrey Wafka,
donc, les taux sont plus hauts, et normalement, c'est pas du tout une bonne nouvelle.
Pour conclure là-dessus.
Oui, on sait bien les fondamentaux qui expliquent la remontée des taux. Évidemment, la dette, l'augmentation des déficits, soutenus notamment par la guerre ou les plans de relance dans les différents pays. Mais c'est vrai qu'il y a un point qui a d'ailleurs été mentionné, c'est aussi les taux japonais. Les taux japonais, historiquement, étaient à zéro, voire en négatif. Hein. Et là, il y a une vraie normalisation de la politique monétaire de la part de la Banque du Japon. La Banque du Japon est en train de relever ses taux, alors très progressivement, mais elle a aussi surtout abandonné le contrôle de la courbe de taux. Ce qui fait qu'il y a un effet de contagion sur toutes les dettes souveraines et qui se fait lentement mais sûrement. Et pour un 10 ans japonais qui est passé de 2 à 2,70 depuis le début de l'année, l'impact il est très fort sur une obligation japonaise. Vous perdez 6-7% depuis le début de l'année sur une obligation japonaise à 10 ans. Et ça a créé de la contagion sur toutes les dettes parce que les investisseurs japonais historiquement étaient des acheteurs massifs de dettes américaines, de dettes européennes. Mais maintenant ils commencent à avoir de la dette japonaise qui leur offre du rendement sans subir le risque de change. Donc c'est un changement de paradigme tightening qui va malheureusement alimenter cette remontée lente et progressive des taux souverains.
Geoffrey Wafka, je reste avec vous pour les valeurs. On parlait d'Airbus hein, qui publiera la semaine prochaine, mais l'avionneur européen qui revoit déjà à la hausse ses prévisions 2029 annonce aussi un programme de rachat d'actions de 5 milliards d'euros sur les prochaines années. Tout cela est plutôt positif. En tout cas, cela plaît au marché. Airbus qui signe la plus forte hausse du CAC 40. Le titre progresse de 7%.
Oui, c'est une publication d'objectifs à moyen terme qui est vraiment très rassurante parce que, comme vous le disiez, la société prévoit quand même de doubler son bénéfice opérationnel à horizon 2029, donc c'est dans 3 ans. Et tout ça illustre une chose, c'est que Airbus a totalement confiance dans le fait de réussir à livrer les avions qui ont été commandés, à aussi se défaire des problèmes de supply chain qu'il y a pu y avoir, notamment depuis le début du conflit au Moyen-Orient. Et la troisième chose, Airbus montre qu'elle arrive à faire de l'argent et à générer des bénéfices qu'elle va pouvoir redistribuer aux actionnaires. Et c'est vrai que ce rachat d'actions, alors il n'est pas énorme, hein, parce que c'est 3% de la capitalisation sur 3 ans, donc ça fait 1% par an. Donc c'est vraiment pas grand-chose, mais néanmoins, ça envoie un signal au marché sur la confiance du management à générer du cash, à générer des flux de trésorerie, faire du résultat et à le redistribuer aux actionnaires. C'était un point de doute peut-être sur cette société depuis quelques mois d'ailleurs.
Franck Morel là-dessus, et puis ensuite on parlera un petit peu du secteur technologique, puisqu'on le disait, on aura des premières publications là, des GAFA ce soir, mais sur l'aérien et sur Airbus, qui continue d'ailleurs d'engranger des commandes hein, depuis le salon de Farnborough à Londres, grand salon de référence annuel, où on voit quand même aussi la bataille entre Airbus et Boeing.
En fait, le vrai sujet, c'est même pas les commandes, puisque en fait, le carnet de commandes d'Airbus est rempli jusqu'en 2030. Le vrai sujet, c'est l'exécution. Il faut maintenant construire les avions qui ont été vendus. À la limite, on prendrait plus de commandes pour les 3 prochaines années, ce serait pas un problème sur l'activité, sur le chiffre d'affaires. Donc, le vrai sujet pour Airbus, c'est construire les avions. Donc, on a eu un regain de confiance sur la chaîne d'approvisionnement logistique. On a le fait que la société rachète des actions, qui a priori suppose en tout cas que l'exécution se passe bien. Donc c'est tout le sujet de la publication. Et sur Airbus, la seule chose qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'on arrive à bien construire les avions comme on avait prévu de le faire. Et pour le cas, c'est le cas, avec peut-être même une lueur d'espoir sur donc toute la logistique, la chaîne d'approvisionnement sur lesquelles on avait eu beaucoup de problèmes ces derniers temps. Donc on peut être acheteur de Airbus. On a 15 à 20% de croissance du bénéfice par année sur les 3 prochains exercices. Maintenant, c'est un long fleuve tranquille. Donc on a meilleur temps d'acheter sur repli et de prendre ses bénéfices quand on est en haut d'un grand canal haussier. Et c'est un peu le cas en ce moment. On va dire qu'on est au milieu. Donc nous, en tout cas, on est neutre sur Airbus actuellement.
Allez, d'un dernier mot sur les valeurs. On aura donc ce soir la tech américaine, les premières publications avec Alphabet, Tesla. Je reste avec vous, peut-être Franck Morel, sur ces valeurs et puis sur ce secteur bousculé par l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs, les commandes. Il faut faire toujours plus. Hein. Aujourd'hui, on parle plus en milliards, on parle en des contrats, en dizaines de milliards. Qu'est-ce que vous en attendez et quelles sont les perspectives?
Sur Alphabet, pour la première fois depuis très longtemps, la société, pour la première fois depuis très longtemps, la société dépense plus d'argent qu'elle en gagne. Donc on a des free cash flow qui sont inférieurs au capex et donc des investissements massifs dans l'IA. Donc les vrais sujets pour la publication, ce sera déjà est-ce que le business historique continue à fonctionner, en l'occurrence le search, est-ce qu'il y a toujours des annonceurs. En tout cas, la dernière publication avait été rassurante, voir si c'est encore le cas cette fois-ci avec la sortie de Google Overview. Est-ce que les annonceurs annoncent aussi par ce biais-là et dans les mêmes proportions? Donc, est-ce que le business historique continue à fonctionner? Est-ce que le cloud, donc tout ce qui est la mise à disposition de puissance, de serveurs, de stockage, de calcul, est-ce que ça continue aussi à exploser comme ça avait été le cas le dernier trimestre, puisqu'on avait une croissance de plus de 60% sur un an? Donc, est-ce que cette croissance continue? Et puis, enfin, toutes les en termes de d'investissement, est-ce que on va avoir des annonces sur des nouveaux modèles? Est-ce que Google est toujours à la pointe de l'IA alors que elle est challengée un peu de partout, notamment par les Chinois? On l'a vu avec Kimi, mais on l'a vu aussi avec d'autres modèles open source. Donc on a aussi l'hégémonie américaine et celle de Google en premier lieu, est-ce qu'elle va être confirmée ou non avec cette annonce, sachant que le sujet des publications à venir d'ailleurs sur à peu près tout le secteur. Ça veut dire savoir si effectivement les investissements aussi conséquents vont un jour générer des bénéfices au moins supérieurs à ces investissements. Et c'est tout l'enjeu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était des sociétés qui étaient hyper capitalisées, qui avaient énormément de cash, et que là, depuis quatre trimestres, elles ont ouvert les vannes comme jamais. Le chéquier est grand ouvert. Donc voilà, on attend des infos là-dessus.
Geoffrey Wafka, le secteur technologique hein, qui voilà, se questionne sur, justement, comme le disait Franck Morel, la question de la rentabilité. Alphabet, ce soir, on aura la suite de publication dans ce secteur la semaine prochaine. Comment vous regardez ça?
Ça va être le vrai sujet, hein. Évidemment, ça reste encore les CAPEX, parce que oui, sur l'activité historique d'Alphabet, elle devrait être très bonne. Les attentes hein, sur Google Search, c'est plus 17% en annuel par rapport au trimestre au deuxième trimestre 2025. YouTube, ça devrait être une croissance supérieure à 10%. On l'a vu dans la publication de Netflix. YouTube prend des parts de marché à Netflix, donc la publication devrait être bonne. Google Cloud, on en a parlé, c'est 65% de croissance attendue au cours de ce trimestre. Donc la vraie question, c'est est-ce que cette croissance et les résultats générés par ces activités-là, elles ne vont pas être mangées, grignotées par les CAPEX. Et à la fin, est-ce que la société va faire des bénéfices ou pas? Ouais. Parce qu'il va y avoir trop de CAPEX.
Donc ça reste. Vous pensez qu'on sera là dès ces semestriels ou il faudra attendre peut-être les.
Malheureusement, je ne pense pas, parce que les annonces de CAPEX sont très récentes, trop récentes. Et pourquoi revenir en arrière sur ce trimestre-là? J'ai un vrai doute sur le sujet.
Allez, chacun en 10 secondes pour conclure, parce qu'on est au bout. Idée d'investissement là, sur la seconde partie de l'année. Quelle valeur, quel secteur, Geoffrey?
Alors, on continue à être très investi sur le secteur bancaire. Hein. Santander, on a vu, a publié des bons résultats. BNP, ça sera demain, mais pareil, il devrait être attendu en forte hausse. C'est un secteur dont les valorisations restent quand même très, très modestes par rapport aux valorisations du marché, alors que le contexte de taux est très favorable, on le voit bien, au secteur bancaire. On a une valorisation qui est faible. Prévision de bénéfices en hausse d'une dizaine de pourcents par an sur les trois prochaines années, du dividende et un peu de rachat d'actions. Donc pour moi, c'est un secteur qui coche toutes les cases. Et un tout petit mot sur le luxe. Le luxe, bon, le contexte n'est pas forcément favorable, mais c'est vrai qu'on a des niveaux de valorisation qui sont attractifs. Donc on va voir si la saison
la semaine prochaine, le luxe.
Exactement. Ouais. Ça redonne un coup de boost ou pas au secteur.
Dans le secteur bancaire, on attend aussi UniCredit. En 10 secondes chacun, Franck Morel, Romain Daubry.
Allez-y. Alors notre pari à nous, ce serait Renault. C'est une société qu'on a en portefeuille, sur laquelle on est donc investi, qui ressemble pas à nos autres positions, puisqu'on est sur une société de deep value. Renault, ça vaut aujourd'hui quasiment rien. On a de niveau de valorisation, on fait partie des sociétés les moins bien valorisées aujourd'hui de la cote française, voire même européenne. Et on pense que c'est une bonne manière de miser sur la hausse du pétrole, et donc une explosion de la demande pour les véhicules électriques, particulièrement en Europe, où Renault est aujourd'hui le mieux positionné pour bénéficier de cette offre de la demande, alors même qu'il se diversifie dans le secteur de la défense, ce qui est passé un peu inaperçu, mais qui est un vrai, à mon sens, un vrai signal stratégique.
Romain Daubry, pour conclure.
Eh bien, d'accord avec l'ensemble des secteurs qui ont été cités. On avait d'ailleurs évoqué ces mêmes secteurs en début de semaine ensemble. Le secteur bancaire reste fort, le luxe, ça peut être intéressant. Renault, pourquoi pas, en effet. Et si on voulait trouver un petit joker, je regarderais du côté du nucléaire. Il y a des titres qui sont revenus sur des niveaux de prix qui sont intéressants. On voit les signaux qui se mettent en place, donc ça peut être un arbitrage intéressant. Le secteur de la défense aussi, qui donne des débuts de regain d'intérêt après une longue, longue pause.
17h58, merci beaucoup, nous sommes au bout. Merci de nous avoir accompagnés. Geoffrey Wafka, directeur des gestions chez Ori Gestion, Franck Morel, président de Zone Bourse, et Romain Daubry, consultant chez Bourse Direct. Votre prochaine dose de marché, ce sera demain matin à 9h, Good Morning Market avec Étienne Brac aux commandes. À noter aussi demain la décision de politique monétaire de la BCE. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais on en a parlé déjà en début de semaine. On l'analysera avec nos invités demain dès 18h. Pour ceux qui le souhaitent, nous sommes ensemble encore en direct pendant 30 minutes. Dans un tout petit instant, c'est le 18h Echo, un condensé de l'actualité économique du jour. À tout de suite.